Je vais vous présenter, cher Pierre, il est liégeois d'origine, toujours la meilleure origine, n'est-ce pas? Économiste de formation, ULG, UCL, Harvard. Il a été durant 35 ans fonctionnaire européen jusqu'en 2005. Au moment de sa retraite, il était directeur général adjoint de la Direction générale du commerce. Auparavant, il avait été chef de cabinet de Pascal Lamy, commissaire européen au commerce, et plus tôt encore, directeur des relations Nord-Sud, et encore plus tôt, hein, parce qu'on recule dans le temps, chef de cabinet d'Étienne d'Avignon, qui était alors le vice-président de la Commission européenne pour la politique industrielle. Depuis sa retraite, enfin sa simili-retraite, comme directeur général honoraire à la Commission, il a d'abord fondé EUR-IFRI, la branche bruxelloise de l'Institut français des relations internationales. C'est un Belge qui a fondé l'un, hein, vous voyez. Et depuis 2008, il est directeur exécutif du centre Madariaga Collège d'Europe. Et depuis lors encore, Pierre Defrain, qui a enseigné à l'UCL pendant 20 ans, demeure professeur invité au Collège d'Europe de Bruges, ainsi qu'à Sciences Po Paris, Paris School of International Affairs.
Absolument.
Il publie régulièrement sur les relations Europe-Chine et Europe-États-Unis, sur la gouvernance de la zone euro, sur la politique commerciale de l'Union et sur le devenir de la société européenne. Il est fréquemment invité à donner des conférences et des interviews à la radio et à la télévision, ne se prive jamais de faire connaître son point de vue dans la presse écrite, encore dernièrement, le 19 avril, dans La Libre Belgique, dans une opinion intitulée « Il faut reconstituer le puzzle européen pour les élections du 26 mai ». Alors, il ne nous entretiendra pas tant ce soir d'économie que de géopolitique. Les questions en ce domaine sont nombreuses. Capital pour l'avenir, nous les avions répertoriées de cette manière. Une éthique européenne de la défense est-elle pensable et à quelles conditions? Comment pondérer l'usage de la force avec la justice et le droit? Les intérêts vitaux de la politique étrangère de l'Europe et de ses États peuvent-ils être représentés par des traits significatifs spécifiques? La capacité pour l'Union, dans le contexte géopolitique, de faire valoir et prévaloir son projet de société et ses intérêts s'accorde-t-elle avec l'outil militaire et jusqu'où? Les églises n'ont-elles pas ici une responsabilité fondamentale? Voilà une brassée de questions. Merci Pierre d'avoir maintenu votre engagement qu'un événement hostile a failli compromettre sans que nous sachions à quelles forces étrangères obscures il pouvait profiter. Étaient-ce les Russes, les Américains, les Chinois? Nous allons le savoir.
Merci beaucoup. Naël, merci de votre accueil, merci de retrouver dans la salle des têtes connues. Je suis même sous bonne garde médicale puisque mon toupip est là, donc je ne risque rien. Nous allons aborder une approche de l'Europe qui n'est pas habituelle. Parce qu'au fond, l'Europe, jusqu'ici, n'a pas grand-chose à voir avec la géopolitique. Elle n'en est pas un acteur. C'est clair qu'elle en est un enjeu, ce qui n'est pas du tout pareil. Alors la géopolitique, déjà, le mot a quelque chose de très ambivalent, parce qu'il est à la fois une discipline et surtout une pratique. Le meilleur exemple étant Kissinger, qui était à la fois un grand théoricien de la géopolitique et un secrétaire d'État américain. Mais il croise aussi deux regards très différents sur la réalité. Un que j'appellerais le regard de Machiavel. C'est le regard des rapports de force. C'est le regard du moment à saisir, de l'opportunité, de l'opportunisme aussi. C'est le temps du cynisme. Bien. Et puis, il y a une approche qui est à l'opposé, celle de, disons, de Kant. L'auteur de la paix universelle, l'idée qu'on règle les choses par le droit, qu'on fonde les rapports des hommes sur la négociation et sur des valeurs. Donc, ces deux approches coexistent. Et elle renvoie à notre dualité comme personne. Chacun d'entre nous est obligé à tout moment de composer entre sa part d'idéal et sa part de réalisme. C'est le sort des individus, c'est le sort des nations. Mais l'Europe n'est pas une nation et jusqu'ici elle n'a pas eu à faire ce choix. L'Europe, comment dire... Peut-être je vais inverser ma présentation parce que je me dis à la réflexion en entendant les mots par lesquels Sœur Noël a introduit le sujet, je ferais mieux de penser un peu autrement, je vais essayer de le faire. Il me semble que quand on voit l'histoire de l'Europe, et ici on parle franc, hein, on n'est pas ici pour se raconter des histoires et répéter la énième fois toutes les images d'Épinal qui courent sur l'Europe, c'est sans intérêt. On peut continuer à les décliner, mais semble-t-il, ça ne prend plus. Dans l'opinion, les gens résistent à ce type de présentation un peu idyllique d'une Europe pleine de vertus et que des forces obscures empêchent d'avancer. Non, l'Europe, il faut la regarder pour ce qu'elle est, et notamment à son point de départ. Le point de départ de l'Europe, il ne faut pas l'oublier, c'est au lendemain de la guerre, c'est la reconstruction pour l'intérêt de l'Europe, mais aussi pour l'intérêt de son principal fournisseur que sont les États-Unis, c'est l'impérialisme soviétique qui crée une menace pour l'Europe, c'est une question de survie pour l'Europe occidentale d'être protégée, ce sont les États-Unis qui s'en chargent. Et ce contexte très particulier fait que les Américains vont investir massivement dans la construction de l'Europe et que, on parle des pères fondateurs, Schuman, Adenauer, Gasperi, Spaak, etc., ils sont là, ils existent. Mais les pères, je dirais, géopolitiques, ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui ont voulu l'Europe. Mais ils ont voulu l'Europe jusqu'à un certain point. Et cette ambiguïté dans le support que les Américains apportent à l'Europe est absolument fondamentale. Ils veulent juste ce qu'il faut d'Europe pour que ce continent tienne ensemble et ne devienne pas une zone d'instabilité dans le monde. Mais ils ne veulent pas que l'Europe, par exemple, refuse une préférence, notamment pour les multinationales. Je prends un exemple. Les Français ont voulu faire une... sur les GAFA, les Belges aussi. Les Allemands ont eu peur de menaces américaines qui disaient si vous faites une taxe sur les GAFA, je mets des droits sur les automobiles allemandes, machine arrière toutes, il ne se passe rien. Donc, les Américains sont soucieux pas seulement de protéger l'Europe, mais que cette Europe unie fonctionne dans des normes qui leur conviennent, conviennent à leurs intérêts économiques et stratégiques. Et en tous les cas, ce qu'ils redoutent absolument, c'est que l'Europe se mêle d'être à son tour un acteur stratégique. Ça, c'est la chose qu'il faut éviter à tout prix, et l'OTAN est là pour pourvoir ça. Alors, les conditions de la naissance de l'Europe aboutissent à une chose qui est fondamentale. C'est ce que j'appellerais la schizophrénie européenne. Les Européens ayant échoué, au lendemain de la guerre, à faire la communauté européenne de défense, ont abandonné la sécurité à l'OTAN sous commandement américain et se sont concentrés sur le marché avec l'idée que la prospérité est un élément de la puissance et qu'à terme, une étape vers l'unité politique de l'Europe. Alors, l'Europe, à cause de ça, et partager les Européens entre ce que j'appellerais l'atlantisme, qui assure la sécurité, et quelque chose qui est une prospérité européenne, mais enrichie d'un imaginaire qui renvoie à nos racines, les plus lointaines, les plus fortes, et qui fait qu'on se sent quand même différent. Donc on veut bien être protégé par les États-Unis, mais en gardant notre identité, ce qui paraît assez difficile en ce moment particulièrement. Alors cette dualité dans laquelle l'Europe s'inscrit et inscrit les Européens rend très difficile l'émergence dans l'opinion publique de ce qu'on appelle un démos, c'est-à-dire d'une opinion publique transnationale fondée sur une conscience européenne, la conscience d'appartenir à une communauté de destin, la conscience de partager des valeurs civilisationnelles. Du moment que, pour votre sécurité, qui est la chose qui compte en premier lieu, vous dépendez d'une puissance extérieure à l'Europe, qui a ses propres intérêts et ses propres valeurs, et qui les affirme, America First de M. Trump, est bien le signe que l'Amérique a sa propre idée de ses intérêts, et ne les confond pas avec les nôtres. Et donc, pour nous, c'est très difficile de susciter chez les Européens ce sentiment de loyauté vis-à-vis de l'Europe qui est souvent encombré ou même, je dirais, dominé par l'allégeance aux États-Unis. Et si, dans la pratique aujourd'hui, vous demandez, quand il se passe quelque chose d'important dans le monde, si un Premier ministre est avisé de ce que, voilà, il se passe ceci ou ça, sa première question sera toujours « Qu'en pense Washington ? Qu'en pensent les Américains ?» Ce n'est pas ce qu'en pensent les autres Européens. Ça, ça vient après. La première réflexion, et je vous jure, ils sont tous comme ça, y compris le gaullien Macron, parce que c'est quelque chose de fondamentalement juste comme démarche. La puissance, elle est dans les mains des Américains. Et notre sécurité dépend des Américains. Cette dualité, je crois, a abouti à ce que l'Europe devienne dépendante des États-Unis, pas seulement pour sa sécurité, mais en fait, profitant de ce statut, les Américains ont débordé. Les Américains ont assis leur supériorité économique, technologique, financière et monétaire, surtout, sur l'Europe. Donc, on n'a pas seulement hérité d'une protection militaire, on a hérité d'un ensemble d'institutions, de principes qui vont de plus en plus loin. Et je ne sais pas si dans une assemblée comme celle-ci, où on réfléchit sur les questions du sens, on s'est interrogé beaucoup sur le néolibéralisme. C'est la dernière importation américaine, elle remonte à 40 ans, mais elle a fait son chemin, elle a pénétré dans les racines profondes de l'Europe. Et ce néolibéralisme, au départ, c'est une, semble-t-il, une simple doctrine économique qui vise à orienter la politique économique vers le marché. Donc la priorité est à la libre circulation, libre-échange, à la privatisation des services publics, au bon fonctionnement des marchés du travail et évidemment des capitaux. Et on met l'accent sur ces dimensions qui sont liées à une conviction bien établie dans les milieux néoconservateurs américains que ce qui fait le succès, c'est le marché, que le marché est toujours plus efficient que la puissance publique et que le marché s'autorégule. Et enfin, c'est la troisième caractéristique, que la croissance obtenue par le marché va finalement bénéficier à tout le monde, ce qu'on appelle l'effet de ruissellement. Et il y a cette triple conviction qui habite ceux qui sont les champions du néolibéralisme, qui s'est introduite en Europe à la faveur de cette influence américaine sur différents plans, et qui, je dirais, a dominé jusqu'à maintenant, et maintenant encore, faute d'autre chose, la pensée européenne, et détermine aujourd'hui pourquoi l'Europe, en fait, s'écarte de plus en plus des attentes des gens, parce que cette pensée néolibérale a un inconvénient majeur, c'est que, à la limite, elle ne crée pas tellement de croissance, mais elle crée de plus en plus d'inégalités. Et les gens sont sensibles à ça, et ce que nous vivons aujourd'hui en Europe, c'est un changement de l'équilibre, de la répartition de la richesse et du revenu. C'est pas propre à l'Europe, mais en Europe, c'est ressenti plus fort, même si ce qui se passe en Europe est moins grave, moins violent, je dirais, qu'aux États-Unis. Donc, l'influence américaine est très forte sur l'Europe. Et l'atlantisme prévaut sur ce que moi j'appelle l'européanité. C'est-à-dire le fait que l'Europe a intérêt à développer ses propres ressources morales, je dirais spirituelles et politiques, pour construire une société plus juste, plus fraternelle, plus solidaire et dorénavant plus en équilibre avec la nature, c'est-à-dire plus durable. Je crois qu'il y a ce choix aujourd'hui à faire entre un certain degré d'atlantisme et j'espère un plus fort degré d'européanité. C'est une quête qui va être longue, qui commence devant l'échec du néolibéralisme. Un vide se crée, comment va-t-on le remplir ? Les élections que nous avons devant nous, le 26 mai, sont les élections du vide. Jamais, depuis que je m'intéresse aux questions de l'Europe, je n'ai été aussi indéterminé devant les choix à faire au niveau de mon propre vote. Rien ne va de soi. Il n'y a plus d'idéologie porteuse qui fasse sens au niveau de l'Europe. C'est une gravité extrême. C'est une gravité extrême parce qu'on a besoin d'idéologie, éventuellement de conflits idéologiques. C'est ce qui fait la dynamique d'une démocratie. La démocratie, par définition, c'est la délibération autour de points de vue différents. Mais ces points de vue différents doivent être des points de vue larges et longs. Une idéologie, c'est une représentation du monde idéal. Alors, beaucoup de gens, notamment Louis Michel, j'ai entendu dans une interview faire une confusion épouvantable entre idéologie et dogmatisme. Dogmatisme, c'est autre chose. C'est considérer que l'idéologie est plus importante que la réalité. Mais l'idéologie, elle vous donne un sens. Elle vous donne une structure de réflexion politique et d'action et des institutions qu'il faut. Donc, nous avons laissé se créer ce vide en Europe parce que nous avons absorbé avec la production américaine, avec les transferts de technologies américaines, avec les formations que nous avons été chercher aux États-Unis, avec le rôle dominant des firmes américaines dans le domaine de l'information, dans le domaine de l'analyse des entreprises, de la cotation des valeurs en bourse, etc., nous avons laissé se créer ce vide qui maintenant doit être comblé d'urgence. C'est le vrai thème sous-jacent au débat que je voudrais susciter avec vous maintenant. Et sur quoi est-ce que je voudrais susciter ce débat? Ben, c'est d'abord sur l'état, je dirais, de l'Europe. Et ça commence par l'état du monde. Et je vais être bref là-dessus, mais assez violent, j'espère, dans mon expression, pour que vous saisissiez la portée des changements. Parce que à un moment donné, ce qui fait que les gens bougent, c'est quand ils voient le danger. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dans ce XXe siècle, le basculement de l'hégémonie occidentale vers la multipolarité du monde. Le XXe siècle a servi à ça. Nous l'avons commencé avec un pays comme la Grande-Bretagne qui gouvernait 40% de la population du monde, un seul pays européen, il y en avait d'autres qui avaient aussi des colonies. Et nous terminons avec les États-Unis mis, tenus, maintenant défiés par la Chine. C'est un basculement qui a pris un siècle, il s'est passé beaucoup de choses dans le courant de ce siècle. La guerre froide, bien entendu, mais avant ça, les conflits internes à l'Europe, la guerre de 14-18, la guerre de 40-45, la guerre froide, et puis la réunification de l'Europe, mais surtout, il s'est passé la mondialisation. La mondialisation, c'est le fait de notre temps. Ça commence au tournant des années 80. D'ailleurs, quand on regarde les dates, on est confondu par la proximité. Il y a comme ça des taches dans le calendrier où il y a des dates qui sont groupées. En 78, Madame Thatcher arrive au pouvoir avec une doctrine néolibérale inspirée de l'école de Chicago, Made in the US. Tout de suite après, 79, nous avons deux événements majeurs. Un, c'est l'entrée de la Russie en Afghanistan, qui va amener 10 ans plus tard la Russie, l'URSS, à s'effondrer. parce que l'Afghanistan sera le Vietnam de la Russie. À l'époque, personne ne voit les choses comme ça, mais avec la sagesse du rétroviseur, tout ça s'éclaircit parfaitement. Les Chinois, 79, font une percée historique en ajoutant au socle maoïste une variante d'Eng Xiaoping qui va faire évoluer la Chine vers un modèle socialiste d'économie de marché. Alors, bien évidemment, les Européens rationnels, cartésiens, se disent comment est-ce qu'on peut mélanger ainsi l'eau et le feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est typique d'une culture, d'une civilisation chinoise qui, en permanence, met en présence le yin et le yang, et n'est pas en mesure de faire des choix à tout moment, parce que les choses ne sont pas parfaitement compatibles. On laisse au temps la possibilité de faire son œuvre et de décanter les choses. Ça fait partie de la psychologie collective des Chinois. Et donc, mélanger le principe du marché avec un pouvoir politique centralisé léniniste, hein, puisqu'il a le monopole de la puissance publique, paraît aux Chinois une chose possible, et ils l'ont fait à partir de 79, prudemment, étape par étape, en tâtant les pierres pour traverser la rivière, selon l'expression connue, avec un pragmatisme que Deng Xiaoping évoquait comme peu importe qu'un chat soit blanc ou gris, pourvu qu'il attrape les souris. Tout ça les a amenés à véritablement changer la donne pour leur pays, et ça commence en 79. En 80, c'est l'arrivée de Reagan. A fortiori, a priori, plus néolibéral que Thatcher. En réalité, on verra, mais ça c'est une affaire d'économiste, que ce n'est pas tout à fait vrai. Monsieur Reagan va faire beaucoup de keynésianisme. Il va dépenser plus que de raison, notamment parce qu'il a une grande idée qui est la guerre des étoiles. C'est-à-dire de créer un nouveau type d'armement, de défense des États-Unis, tel que la puissance nucléaire russe est annihilée parce qu'elle sera détruite avant d'avoir servi. C'est un pari technologique incroyable qui mobilise des ressources énormes, qui coûte mais c'est financé par le reste du monde, puisque les Américains s'endettent dans leur propre monnaie, en dollars, donc ils sont tout à fait en mesure de faire des choses qu'aucun autre pays dans le monde ne peut faire. Les Allemands font la leçon à tout le monde sur la manière de gérer un budget et comment il faut être sérieux et orthodoxe et ne pas dépasser un certain niveau de déficit et un certain niveau de dette. Les Américains s'en contrefichent éperdument. Néolibéraux, ils puissent dans la caisse et c'est va tout vent. Donc, Reagan fait ça, et ce moment, ce tournant des années 80 est vraiment le tournant fondateur de la mondialisation. Et la mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le déploiement à l'échelle du monde de toutes les grandes entreprises, les firmes globales, les multinationales, mais d'un statut déjà important, qui vont répartir les étapes de leur processus de production à travers le monde, ce qui va avoir deux effets importants. Un, c'est de relever le taux de croissance de l'économie mondiale, donc tout le monde se réjouit. L'autre, c'est d'amener une série de pays dans les chaînes de valeur ajoutées de ces firmes globales et d'aider à leur développement. Mais le pays qui va profiter le plus de cette opportunité, ce sera la Chine. Autrement dit, quelque part, la Chine va être le grand bénéficiaire de la mondialisation. Deux autres grands bénéficiaires de la mondialisation, ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais comme ils sont incapables de gérer correctement les bénéfices de la mondialisation pour leur population, cette mondialisation devient en Amérique comme au Royaume-Uni un facteur de division, de lutte des classes. La lutte des classes, c'est un terme marxiste, mais Il se trouve que quelqu'un que Jacques Segers connaît très bien, parce qu'il est gros investisseur aux États-Unis, qui est Warren Buffett, qui est un homme que moi je respecte et j'admire beaucoup, il est immensément riche, il a déjà donné sa fortune à la fondation Gates, il n'a même pas fait une fondation pour lui, c'est un homme qui vit simplement, qui fait des investissements bien étudiés, bien calibrés, qui a gagné des fortunes colossales. Mais il a dit ceci de très important il y a 4-5 ans, il a dit oui, il y a une guerre des classes aux États-Unis. Et c'est nous, les riches, qui l'avons commencé et nous sommes en train de la gagner. Et quelque part, ça a aussi fait perdre les États-Unis. Les États-Unis se sont divisés entre les gagnants et les perdants de la mondialisation et les perdants se sont coalisés derrière Trump, ce qui évidemment est un peu étrange pour nous, Européens, qui n'avons pas observé que Trump n'est pas du tout un grand industriel ou un grand financier, c'est un investisseur immobilier. Hein, c'est comme si Charlie Depot était devenu tout d'un coup le président de la région bruxelloise. Alors, je crois que là, le cas du Royaume-Uni est aussi désastreux parce que dans le Brexit, il y a le souverainisme de ce qu'on appelle « Little England », mais il y a aussi les exclusions sociales, la pauvreté, la société duale. Alors que la Grande-Bretagne, avec la City, a accumulé des bénéfices phénoménaux dans la mondialisation. Donc la mondialisation a eu ses côtés positifs et puis il a eu ses côtés négatifs. Maintenant, il y a un côté négatif que nous n'avons vu, on aurait dû le faire, c'est évidemment le climat et l'environnement. Parce que la mondialisation a fait quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. On s'était habitué à vivre un monde dans lequel il y avait 20% de riches qui avaient 80% de richesses et 80% de pauvres qui se partageaient le reste. Et on pensait que ça allait durer comme ça. Que ça, c'était la démographie qui voulait ça. Il y avait un monde pour les riches, un monde pour les pauvres. Et ça n'allait pas changer. Donc, il ne fallait pas trop se préoccuper des pauvres. Ils étaient nombreux, mais ils vivaient de rien. Donc, pas vraiment des dangers pour le climat. Pour l'environnement, oui. Il est connu que ceux qui polluent le plus, ce sont les plus pauvres et les plus riches. Mais au niveau de la pollution climatique, on n'a rien vu venir. Ça s'est développé. Ça se développait depuis 2 siècles. On a réalisé très tard qu'il y avait un problème climatique qui appelait une gestion immédiate. Le facteur qui a accéléré la révélation de la facture climatique accumulée depuis 200 ans, c'est la mondialisation. Alors cette mondialisation, elle aboutit à quoi ? Mais elle aboutit à ce basculement de l'Occident vers l'Asie. Par la montée en puissance de la Chine et par le déclin relatif des États-Unis. Nous-mêmes étant une constellation dans l'orbite américain, mais pas très sûr que nous y sommes encore tout à fait à l'aise, que nous y avons vraiment notre place, avec des velléités de faire autre chose, mais à ce stade, rien que des velléités. Donc, nous vivons ce temps où la mondialisation, qui est une projection de la puissance technologique, financière et économique de l'Occident, va aussi amener quelque part son déclin relatif. Moi, je ne me préoccupe pas trop de ça. Je pense d'abord que c'est tout à fait légitime que le monde entier accède à la prospérité, donc tant mieux s'il y a un changement dans les rapports de force et dans les niveaux de bien-être, dans la mesure où ça va vers le haut, c'est gérable, c'est difficile. Tout changement amène des déséquilibres et des ruptures et des conflits, mais c'est gérable et c'est une dynamique qui va dans la bonne direction. Encore faut-il la gérer. Et la question maintenant, elle est simplement la place qu'on va faire à la Chine. Et là, je vous rappelle un petit élément d'histoire, parce que la géopolitique a une caractéristique, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup à l'histoire, à la géographie, certes, qui est, comme disait Bismarck, un peu imprudemment est le seul facteur permanent dans l'histoire des peuples. Je dis imprudemment parce que nous savons que maintenant, la géographie, on fait des tunnels, tunnels sous la Manche, on fait des canaux, Panama, Suez. La nature s'en mêle, on fait fondre l'Arctique. Maintenant, on traverse l'Arctique à la belle saison avec des containers. Ça, c'est quand même un fait tout à fait nouveau. Donc, la géographie bouge aussi. Mais en gros, c'est vrai, c'est surtout l'histoire qui nous intéresse. Et l'histoire, ici, c'est quand même l'histoire de la réussite de l'Occident, qui est le fait que l'Occident, et surtout l'Europe, a inventé les deux institutions qui vont moderniser d'abord le continent et ensuite le monde, mais aux conditions de l'Occident, c'est-à-dire le capitalisme et la démocratie. Très curieusement, ils naissent en même temps, à la fin du XVIIIe siècle, en même temps que l'entrée dans l'ère anthropocène, c'est-à-dire dans l'ère du climat qui commence à se détériorer. Les trois phénomènes coïncident. Mais la relation entre capitalisme et démocratie est vraiment la relation cruciale, et elle est très complexe. Le capitalisme a une logique qui est celle du profit, et le pouvoir est celui de l'argent. La démocratie a une logique, c'est le vivre ensemble, et le pouvoir, c'est un homme, une voix. Ce ne sont pas les mêmes rationalités. Mais, Dieu merci pour le capitalisme, la démocratie a pris un train de banlieue. Capitalisme, c'est un direct, il devient tout de suite international, global, dès le 19e siècle. La démocratie s'arrache à coups de luttes ouvrières, de luttes sociales et puis de combats politiques, et il a fallu deux guerres pour avoir le suffrage universel des hommes et des femmes. Donc la démocratie, elle suit, mais derrière. Néanmoins, cette tension entre capitalisme et démocratie est fondatrice de nos systèmes. Et l'équilibre entre les deux est ce qui fait qu'une société a un avenir ou est destinée, je crois, à sa perte, et à sa perte la plus violente, c'est-à-dire dans le conflit. L'Europe a exploité ces deux outils pour s'imposer au monde. Alors elle a été démocratique au-dedans et beaucoup moins au-dehors, comme vous savez, on a fait des empires coloniaux. Mais au total, nous avons eu cet avantage de faire cette percée qui, en Europe, a trouvé un équilibre après deux guerres et dans le contexte de la guerre froide, par un pacte entre capitalisme, travailleurs et État, qui a été le contrat social de l'après-guerre, l'État-providence, la politique keynésienne de plein emploi, les politiques d'égalité des chances. L'Europe a fait une percée, là. L'Amérique aussi, mais d'une autre façon, avec le New Deal, qui précède la guerre, mais qui est renforcé avec Truman après la fin de la guerre. Mais à partir de là, les routes vont se séparer et les Américains vont chercher à retourner avant la crise de 1929, avant le New Deal, pour rétablir les choses dans leur statut initial de rapport de force entre ce qu'on appelait Wall Street et Main Street, entre la finance et l'homme de la rue. Chez nous, on aura fait un progrès. Pendant 30 ans, on va approfondir le modèle du capitalisme contractuel, on pourrait l'appeler comme ça. Alors que les Américains vont développer un capitalisme concurrent, qui est le capitalisme actionnarial et financier. Et qui tend, à travers le néolibéralisme dont j'ai parlé, à s'imposer à nous comme une référence. Et la vraie tension qu'il y a entre les États-Unis et nous, c'est ça. C'est une tension au niveau des idées, au niveau des conceptions du monde et au niveau de la, finalement, des valeurs qu'assume une société. Je dirais que l'Europe, dans cette affaire, joue son âme. Si elle laisse se faire, comme c'est le cas depuis une trentaine d'années déséquilibre entre la démocratie et le capitalisme, elle va devenir une société de plus en plus matérialiste, individualiste, une société où seul compte l'efficacité, la compétitivité, une société qui se dépouille peu à peu de son héritage judéo-chrétien et de l'apport des Lumières, et va devenir une société assez clonée où il y aura une tension permanente avec un risque de déshumanisation. Je crois que le risque que nous prenons quand la démocratie perd pied par rapport au capitalisme, c'est la déshumanisation. Et un indice que les choses sont avancées, ce sont ces élections du 26 mai qui révèlent ce vide, qui montrent que les gens se disent « à quoi ça sert la politique ? Est-ce qu'on doit aller voter ? Pour qui voter ? Est-ce tous ces gens qui s'agitent ? Est-ce qu'ils servent à quelque chose ?» C'est d'une gravité extrême, parce qu'ils sont extraordinairement importants, et que ce sont les seuls à pouvoir équilibrer cette emprise puissante du capitalisme qui aujourd'hui se complique de celle de la technologie qui est un peu devenue l'outil du capitalisme. C'est d'ailleurs la source principale de rémunération du capitalisme. C'est la technologie et la finance. C'est sa transformation du capitalisme, notamment aux États-Unis, mais qui arrive chez nous de toute façon. Et donc, quelque part, nous avons inventé ces deux outils de la modernité, capitalisme, démocratie. On a trouvé un équilibre à un moment donné, cet équilibre est en train d'être rompu, et on se demande comment retrouver le contrôle. On a l'impression d'être gagné de vitesse, que les politiques sont gagnées de vitesse, mais a fortiori nous, qu'on doit subir le changement. Et subir le changement dans un monde dont on ne voit pas les finalités, parce qu'on a abandonné de questionner les finalités dans le monde où nous sommes. On est devenu un monde axé sur la raison instrumentale. Ce qui compte, c'est d'être efficace, c'est d'être compétitif, c'est d'être performant. Pourquoi faire ? Ça, c'est vraiment la question. Quel est le sens de la vie ? Pourquoi un quart des Belges prend des antidépresseurs ? Hein ? Ça, ou de l'alcool, ou des drogues, en gros. 25%. Quand même, pas peu de choses. Si la prospérité sert à ça, franchement, on a manqué le bateau. Alors, premier défi que doit relever aujourd'hui le monde, c'est de retrouver cet équilibre, et une manière de le faire, je crois, c'est le climat. C'est un peu quelque chose qui nous arrive de nulle part, bien que je vous l'ai dit, il y a 200 ans que ça dure, mais on le réalise très tard, et tout d'un coup, on se rend compte qu'il faut arrêter de se disputer à bord de du vaisseau Terre, qu'il faut vérifier le gouvernail, la boussole, retrouver une direction, sinon on va s'écraser quelque part. Et ce qui crée cette situation tout à fait nouvelle, c'est l'environnement et le climat. Tout d'un coup, il y a un mur qui se dresse devant cette course effrénée à la croissance matérielle, à cette prospérité un peu factice qui ne s'accompagne pas d'un progrès de l'esprit. Je crois qu'il faut bien jouer cette affaire du climat et de l'environnement comme un levier pour un changement de société, parce que si on ne le fait pas, on va au désastre. Il y a deux aspects dans cette question de l'environnement et de la société. Je mentionne en passant qu'on célébrait aujourd'hui, ou demain, la journée du dépassement, c'est-à-dire le moment où on a consommé toutes les ressources de l'année au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'on crée une dette qui sera acquittée par nos enfants et nos petits-enfants. Donc notre mode de vie est carrément insoutenable. Si on projette au niveau de la planète le style de vie américain, il nous faut 5 planètes. Et je vous signale que la Belgique pourrait être un pays exemplaire puisqu'elle a 4 ministres de l'environnement, 4 ministres de l'énergie. En fait, est dans le top 5 des pays qui consomment le plus par tête de pipe, malgré les efforts de nos jeunes pour trier les déchets et se prendre leur vélo. Pour un tas de raisons, on peut y revenir dans la discussion, mais c'est sans intérêt. La rareté des ressources, à mon avis, est le premier problème avant la survie de la planète, cette émergence de la Chine, très nombreuse, et dans son sillage d'une partie de l'Asie, va faire que les ressources deviendront de plus en plus rares, et donc que le risque qu'on se batte pour les ressources entre continents, entre systèmes, est évidemment quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas un risque qu'on peut négliger, on ne peut pas simplement dire, oh, allez, les choses ne tournent pas nécessairement mal. C'est vrai, la tartine de confiture ne tourne pas nécessairement sur la confiture, mais il y a quand même une chance qu'elle tombe sur la confiture. Donc, on a besoin d'un système au niveau mondial pour gérer la rareté des ressources et l'effort climatique. Sans quoi, nous allons être gagnés de vitesse. Mais ce changement climatique et cette économie des ressources, si nous arrivons à la provoquer, crée une occasion de réfléchir et de recréer un cadre de régulation de notre système, à commencer par le capitalisme, de manière qu'il soit plus juste, moins instable et surtout, évidemment, plus compatible avec l'environnement. Cet événement, qui est peut-être un signe de la Providence, qui protège les hommes contre leur propre folie, contre leur propre hubris, n'avons peut-être pas les ressources de leadership ou les ressources morales pour inverser le cours des choses, mais on nous donne une occasion, un devoir de le faire, une légitimité pour le faire. Je crois que c'est une affaire qui est tout à fait gérable et qui va ouvrir la possibilité à des changements intéressants dans nos sociétés. Parce que j'ai parlé du néolibéralisme comme doctrine économique, mais vous avez bien vu que c'est un phénomène anthropologique, qu'il a pénétré dans tous les actes de notre vie. C'est sidérant. Je veux dire, quand le marché entre dans la culture, dans le sport, dans la sexualité, dans le charity business, et puis surtout dans la cuisine. Non, mais dans la cuisine, c'est une chose extraordinaire que nous qui préparions nos repas et qui les partagions ensemble dans une discussion, nous sommes maintenant avec des repas préparés. Notre frigo est rempli par des produits dénaturés, dangereux pour la santé. Je veux dire, le néolibéralisme, c'est devenu un mode de vie et la compétition, elle est dans les écoles. Elle commence dans les écoles. Une fois qu'on oublie l'idéal de dépassement de soi et d'accomplissement dans la fraternité avec les autres et qu'on met l'accent sur tu dois être le premier, tu dois accumuler des savoirs pour aller dans la meilleure école possible et puis après la meilleure université, etc. Vous viciez toute une société. Donc ici, il y a place pour des changements avec le contrôle du climat et de l'environnement qui sont, je crois, très porteurs. Ça veut dire quelque chose qui va à l'encontre de mon deuxième défi et qui présuppose que l'Europe s'investisse dans cette question. Qui est une coopération internationale d'un niveau jamais réalisé jusqu'ici. Jamais réalisé jusqu'ici. On ne peut pas avoir de passagers clandestins dans une affaire comme l'environnement et le climat. Vous ne pouvez pas tolérer que des gens vivent selon des normes de gaspillage ou de destruction de l'environnement différentes des vôtres. Il faut une certaine égalité des comportements, ce qui implique un partage des sacrifices. Parce que pour arriver à une égalité de comportement, comme les potentiels ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, d'un continent à l'autre, d'un individu à l'autre, il y a une solidarité qui doit revenir. Donc c'est un moment, de ce point de vue-là, où l'Europe, en principe, devrait devenir la pionnière chez elle et l'architecte au niveau global de cette coopération internationale qui est une question de vie ou de mort pour la planète, mais aussi, je le répète et j'insiste, pour la paix du monde, pour éviter que la course aux ressources ne devienne un choc entre les continents. Le deuxième défi auquel l'Europe est intéressée comme puissance géopolitique, c'est ce qu'un éminent professeur de Harvard, Richard Allison, a qualifié de piège de Thucydide. À dire vrai, j'ai entendu l'expression dans la bouche de Monique Munt-Dopsy, qui est la présidente de l'Académie royale de Belgique, dans un exposé qu'elle a fait sur la Grèce antique, et elle rappelait que Thucydide, grand historien du 5e siècle avant le Christ, avait étudié les guerres du Péloponnèse et avait relevé que quand un hégémon montant, en l'occurrence Athènes, menace le statut d'un hégémon existant qui était Sparte, le risque de conflit est, pour Thucydide, complet. Et avec une équipe de Harvard, il a étudié 16 situations de conflit depuis l'an 1500. Et sur les 16 situations où il y a à chaque fois un hégémon montant qui confronte un hégémon descendant, 12 fois on a eu un conflit. C'est un taux de probabilité assez élevé pour qu'on s'en soucie. Alors, où est ce piège de Thucydide dans le paysage post-mondialisation? C'est évidemment entre la Chine et les États-Unis. Ça, je crois que tout le monde a compris. C'est un choc de deux géants. C'est un choc aussi de deux systèmes, ce qui n'arrange rien. Si les Chinois étaient simplement nombreux, plus riches et avec une forte croissance, on pourrait dire, mon Dieu, pourquoi pas, on va leur faire de la place. Mais on a une bonne raison, pensons-nous, en occidentaux, de ne pas leur faire de place, c'est qu'ils ont un régime que nous n'aimons pas. Nous ne l'aimons pas parce qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, parce qu'ils ne respectent pas la démocratie, parce qu'ils ne respectent pas des choses qui ont fait notre modernité. Oui, mais nous y sommes arrivés, nous, très tard, après des siècles. Mais on voudrait que les Chinois, eux, fassent ça tout de suite et qu'ils commencent par faire la démocratie avant de se développer. Incidemment, je pose la question, on peut y revenir dans le débat, si vous me donnez un cas de pays. Ce que je vais dire est assez pessimiste et va être un choc pour beaucoup d'entre vous, mais je suis sûr de mon coup. Si vous trouvez un cas d'un pays en voie de développement qui soit passé au niveau supérieur de pays avancé, à partir de la démocratie, vous levez la main et vous me le donnez. C'est terrible de penser que les choses ne se sont historiquement jamais passées comme nous recommandons. Dans nos chartes politiques, dans nos textbooks d'économie, on dit aux gens, écoutez, allez-y, la démocratie va vous conduire au développement. Et là, ce n'est pas vrai. Et les Chinois, eux, ont pris acte de ça et ont choisi un autre chemin qui marche pour eux. Alors la question est de rendre les choses compatibles. Et c'est ça qui va être très difficile. C'est l'idée d'une coexistence entre des systèmes différents. C'est un vrai problème pour nous tous, pour l'Europe aussi, hein, parce que de ce point de vue-là, la Chine nous pose aussi des problèmes. Pas de même nature, parce que nous ne nous sentons pas menacés dans notre hégémonie stratégique, comme le sont aujourd'hui les États-Unis, mais ça pose un vrai problème à l'Europe, ne serait-ce qu'à travers la concurrence des importations, des exportations, des investissements, des transferts de technologies, de la propriété intellectuelle, tout ça, c'est des vraies questions qui opposent souvent, avec raison, la Chine et l'Europe, et il n'y a aucune raison de se laisser faire par les Chinois, rassurez-vous. Mais jusqu'où va-t-on dans l'exigence que formulent les Américains de dire, les Chinois, fini la rigolade, vous avez bien profité du système, maintenant, il faut s'aligner sur les considérations américaines. Alors, c'est une pensée qui n'est pas le fait de Trump, hein. Elle est plus ancienne. Je dis, Obama, quand il était président, a été le premier à concevoir une politique d'endiguement, de containment de la Chine, en faisant des accords commerciaux, le TPP, Trans-Pacific Partnership, avec 11 pays de la zone Pacifique, et le TTIP, l'Alliance Transatlantique Commerciale, avec l'Europe, en laissant la Chine dehors, pour faire pression sur la Chine, pour qu'elle croissent plus lentement de manière à ne pas être en mesure de se constituer comme une puissance stratégique rivale des États-Unis. Ça, c'est le grand dessein des gens civilisés du côté du département d'État américain et que Obama avait fait sien. Mais il y a une version plus agressive, plus offensive qui aujourd'hui prévaut avec Trump en disant on mène une guerre commerciale avec la Chine, peu importe les conséquences, notamment pour l'Europe, nous allons forcer la Chine, qui dépend très fort de ses exportations, à mettre un genou en terre et à freiner son développement pour arrêter sa croissance militaire. Alors, je ne dis pas que la croissance militaire de la Chine n'est pas un problème, c'est un vrai problème. Mais mettez-vous à la place des Chinois. L'Amérique aujourd'hui dépense la moitié des dépenses d'armement dans le monde. Et de loin, la puissance stratégique la plus importante du monde. Elle a 80 bases distribuées dans le monde, elle a 11 porte-avions qui peuvent intervenir dans tous les coins du monde. L'Europe, incidemment, elle a sûrement un porte-avions. Le Charles de Gaulle. Je ne suis plus sûr que les Anglais en aient encore un qui soit opérationnel. Probablement que oui, mais c'est peut-être un porte-hélicoptère plus qu'un véritable porte-avions. On a un problème, là. Mais les Chinois, eux, ont dit, pendant des siècles, nous, on a voulu rester chez nous. On a débordé par le peuplement sur nos frontières. On a débordé en créant ce qu'on appelle les États tributaires, qui devaient simplement dire à l'empereur de Chine qu'il était le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et moyennant un tribut financier, bien sûr, les choses en restaient là et les pays restaient autonomes. Mais la Chine n'a jamais été chercher une colonie à l'autre bout du monde. Elle n'est jamais sortie. D'ailleurs, il y a un épisode extraordinaire dans l'histoire de la Chine, pendant la période Ming, au XVe siècle, avant Christophe Colomb, les Chinois arment des jonques qui sont 3-4 fois la dimension des caravelles de Christophe Colomb pour aller explorer l'océan Indien et une partie de l'Afrique. Ils le font avec succès. Il y a à un moment donné une jonque où on arrive à mettre 1000 Chinois. Alors, ils sont petits, ils sont moins gros que nous, mais 1000, c'est quand même beaucoup. Je veux dire que il n'y avait pas 100 personnes dans les bateaux de Christophe Colomb. Donc, il y a eu de la part de la Chine une capacité, à un moment donné, d'aller vers le monde. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont brûlé leurs bateaux. Ils ont dit, c'est fini, on ne sort plus de là. Pour des raisons extraordinairement intéressantes, d'ailleurs, semble-t-il, parce que ça reste quand même une énigme. Mais l'hypothèse la plus sérieuse, c'est celle-ci. Les mandarins, les gens instruits, les énarques qui entourent l'empereur, avaient trouvé que le vrai péril pour eux, c'était les marchands, le capitalisme. C'est-à-dire des gens qui devenaient riches et avec la richesse vient le pouvoir, surtout dans un pays qui a une longue tradition de corruption comme la Chine. Et donc ils se sont dit, ces grandes expéditions navales loin du monde, ça va développer le commerce, la richesse, mais ce sera la richesse pour les intermédiaires, pour les armateurs, les marchands. Qui a été le cas de Venise, par exemple, qui a fait un petit état de rien du tout, qui a fait une fortune fabuleuse sur le commerce. Ils ont dit non, on ne prend pas le risque et on arrête ces expéditions. Bon, soit. Aujourd'hui, ils ont dit maintenant... Qu'on le veuille ou non, nous sommes articulés sur l'ensemble du monde. Notre énergie, notre nourriture vient des quatre coins de la planète et nous devons protéger nos lignes d'approvisionnement et de débouchés. Vous pouvez dire, mais pourquoi ils ne s'en remettent pas aux États-Unis ? Ben justement, ils ne veulent pas s'en remettre aux États-Unis. Parce qu'ils savent qu'il y aura des conditions. Que l'Amérique posera ses conditions pour protéger les bateaux chinois. Et si ces bateaux ne sont pas protégés, écoutez, quand vous voyez les actes de piratage au large de la Somalie, vous avez compris qu'il y a quand même un vrai problème. Donc les Chinois construisent maintenant les porte-avions, ils en sont au deuxième, un troisième est en vue, ils ont surtout une flotte marinière très importante, ils deviennent ce qu'on appelle une « blue water navy », c'est-à-dire une puissance maritime. Un pays qui est une puissance continentale pendant toute son histoire, qui est très longue, devient en l'espace de 20 ans une puissance maritime qui va compter de plus en plus. Et ils ont des bases et ils rachètent des ports, y compris en Europe. Regardez le Pirée, regardez Gênes, etc. Donc ils sont en train de développer une capacité, je dirais, de sécurité pour eux. Mais Donc il ne vise pas à conquérir le monde, ça, pas du tout dans l'esprit de la Chine, mais en vous protégeant, parfois vous pouvez faire mal. Et vous pouvez amener à ce que vous n'avez pas cherché, mais qui est le conflit avec autrui. Donc tout ça, ce n'est pas parce que les intentions ne sont pas là que les choses finalement ne se passent pas bien. Et la Chine a une vision du monde qui devient de plus en plus ambitieuse. La Chine joue un rôle important dans les organes multilatéraux, l'OMC, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. La COP21, sans la Chine, on n'y arrivait pas. Donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est qu'il développe une puissance régionale, économique, avec notamment les routes de la soie. Les routes de la soie, c'est 1000 milliards d'investissements, par la terre, par la mer, qui arrivent aux portes de l'Europe, qui entrent dans l'Europe, qui vont aller jusqu'au bout de l'Europe. Autrement dit, qui renvoient à l'Europe quelque chose de tout à fait nouveau pour elle, c'est qu'elle est partie du continent eurasiatique. Nous, on a été habitués à avoir affaire à l'atlantisme avec les Américains, à la Méditerranée, parce que nos colonies étaient là. Mais on a oublié l'Est. Il y avait de toute façon le mur de l'URSS qui nous empêchait de regarder au-delà ce qui se passait. Maintenant, voilà que les Chinois remontent par l'Asie centrale et pose un problème à l'Europe de savoir est-ce que nous sommes partie prenante à ces routes de la soie, est-ce qu'elles sont dans les deux sens, ou est-ce qu'elles seront un outil chinois pour nous diviser. C'est la question, donc la question du rapport entre la Chine et les États-Unis n'est pas seulement une affaire entre la Chine et les États-Unis, c'est une affaire qui est un enjeu pour le monde et qui est un enjeu pour la paix du monde. Et jusqu'ici, les Américains, il faut bien le dire, réagissent mal. Les Américains de Trump réagissent mal. Ils passent à repli sur eux-mêmes. Ils développent l'unilatéralisme en matière commerciale, c'est évident, mais pensez à l'extraterritorialité des sanctions. Ils profitent de ce que le dollar est la monnaie du monde pour contraindre, par exemple, l'Iran à faire autre plus et autre chose que l'accord de dénucléarisation négocié avec l'Europe et la Chine et les États-Unis. Et cet usage de l'extraterritorialité est quelque chose qui devient de plus en plus fort du côté américain. Donc, c'est un pays qui, il se retire de la COP21. C'est quand même un choix absolument, je dirais, offensant pour le monde. Ils sont dans cette démarche et ils ont besoin que quelqu'un les ramène à la raison. À la fois fasse pression sur la Chine, mais aussi ramène les Américains à la raison. Et tant que nous sommes à ce point dépendants des Américains, nous ne jouerons pas un rôle vis-à-vis d'eux. Eux nous influençons, nous ne les influencerons pas. C'est le véritable enjeu géopolitique de l'Europe. Troisième défi, et je vais en terminer avec les défis, c'est le voisinage. Nous avons un voisinage instable. Un voisinage instable, je cite rapidement, évidemment l'Afrique, l'explosion démographique en Afrique, qui n'est toujours pas développée, et donc ça peut se passer très mal. Et avec le climat qui s'ajoute, vous pouvez avoir des guerres du climat en Afrique, et vous aurez du coup des migrations. Et ce que nous connaissons maintenant, c'est du pipi-chat à côté de ce qui nous attend. Donc nous devons être prêts. Pas à fermer nos frontières seulement, à gérer l'immigration. C'est un défi énorme pour l'Europe. Un défi énorme, il ne suffit pas de dire non, et de créer des agences Frontex, il faut le faire. Mais il faut avoir une politique où nous allons accepter l'immigration. Mais l'immigration n'est pas la solution pour ces pays, parce que ce sera pour eux, de leur point de vue, toujours marginal. Ce qui compte, c'est le développement. Mais il faut que leur développement soit durable. Or, nous les avons privés de toute marge sur le CO2, puisqu'on a utilisé pendant 2 siècles les marges de CO2 à notre profit. Donc, nous avons une dette climatique formidable vis-à-vis de l'Afrique et il faut l'honorer. Ça, c'est un aspect nouveau de traitement d'une menace de voisinage que nous devons avoir à l'esprit. Autre cas, c'est celui du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, Le chaos du Moyen-Orient, il a deux origines. Je pourrais dire trois si j'ajoute Israël. Israël qui a été une manière pour l'Europe quand même de se défausser de sa responsabilité dans la Shoah, hein, soyons clairs. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Et on fait payer aux Arabes quelque chose que nous avons commis ici. J'exagère un petit peu, mais pas tellement, on peut y revenir. Le problème du Moyen-Orient, je le vois dans l'accord négocié entre le président Roosevelt avant sa mort, juste avant sa mort, et le roi d'Arabie Saoudite sur le croiseur Quincy le 14 février 1945, c'est la Saint-Valentin, on peut retenir facilement, et c'est un accord très simple. Les Américains qui veulent remplacer les Français et les Anglais du Moyen-Orient disent « Vous nous assurez d'un pétrole bon marché et abondant, nous garantissons la stabilité de vos régimes, de vos dynasties. » Et ça nous amène, avec le fil du temps, dans un conflit direct avec les masses arabes. Nous protégeons des régimes corrompus, inefficients, despotiques, contre les masses arabes. C'est-à-dire que nous avons un discours sur les droits de l'homme et nous faisons à peu près le contraire au Moyen-Orient. Et si vous cherchez une raison pour laquelle les islamistes nous détestent tant au point de se faire sauter dans nos salles de spectacle, dans nos églises, de massacrer les gens à l'arme blanche, etc. Vous pouvez vous dire, mais quelle est cette folie, d'où vient cette haine? Eh bien, réfléchissez à ça. Au fait que nous avons un discours humaniste sur les droits de l'homme, l'économie de marché, etc. Et puis, à nos portes, nous soutenons des régimes qui oppriment leur peuple et ne leur laissent aucune chance de développement. Et vous aurez une misère sans nom. Et une corruption semble. Et où la torture est la règle dans plusieurs de ces États. La torture. Il ne s'agit pas seulement d'emprisonnement. Donc, ça, c'est un deal qu'il faut renégocier, le deal de Quincy. Et ça fait partie de l'enveloppe climat, on peut y revenir. Troisième élément pour le Moyen-Orient, c'est évidemment la guerre d'Irak. La guerre d'Irak est fascinante. Parce qu'au fond, c'est la guerre qui n'aurait pas dû être. Une guerre qui n'a aucun sens. Elle est fondée sur un fake news. À savoir que les Irakiens disposent d'armes de destruction massive. Qui publie les fake news? Les Américains. Et trouvent les Espagnols, les Anglais, les Portugais pour les croire et marcher avec eux dans une coalition soutenue par ce que le secrétaire d'État à la Défense de l'époque, Rumsfeld, appelle la Nouvelle Europe, c'est-à-dire les nouveaux États membres, qui sont pro-américains, et on peut les comprendre, mais jusqu'à un point parfois déraisonnable. Et à cause de la division de l'Europe, parce que Chirac et Schröder, Dieu merci, eux vont résister, je mets Berlusconi aussi avec, hélas, le camp des va-t-en-guerre, nous avons une guerre en Irak que nous aurions pu empêcher. Imaginons une Europe avec sa défense commune au sein de l'OTAN, elle pouvait dire aux Américains « ne faites pas ça ». Ils ne l'auraient pas fait. Ils n'auraient pas osé y aller. Je vais dire un mot de la Russie et puis je terminerai de la défense dans la discussion parce que j'ai chapitre défense, mais c'est un peu compliqué et on n'a pas le temps. Mais un mot sur la Russie. Il y a quelque chose avec la Russie qui me trouble depuis longtemps. Nous avons été les adversaires de l'URSS parce que l'URSS opprimait son peuple à travers un totalitarisme terrifiant et les pays satellites. Mais une fois que ce régime a implosé, et que la Russie remplace l'URSS, pourquoi sommes-nous en guerre avec la Russie? Maintenant, évidemment, on a une bonne raison, on a Poutine et la Crimée, plus le Donbass. Donc les raisons d'être en froid et en hostilité avec la Russie ne manquent pas. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et je vous jure, il faut étudier soigneusement la décennie post-91. Au lieu de jouer la carte d'une Russie évoluant vers un régime démocratique et une vraie économie de marché, avec l'appui d'un plan Marshall de la même taille que celui qui a été donné à l'Europe et que l'Amérique avait promis aux réformateurs russes, on a fait le contraire. On a laissé tomber la Russie, qui retournait à ses vieux démons, qui sont l'autoritarisme, la corruption et la tension aux frontières, mais nous avons aggravé la tension aux frontières en installant des bases de l'OTAN, des radars, des antimissiles, soi-disant dirigés vers l'Iran, mais qui, comme par hasard, pouvaient arriver aussi en Russie. On a annexé dans l'OTAN certains pays qui faisaient partie de la Russie. On a désécurisé la Russie, qui a quand même, je veux dire, la Russie, elle se rappelle de Napoléon et d'Hitler. Hein. Donc, on ne peut pas leur en vouloir d'être méfiant vis-à-vis de l'Occident. Et quand on enlève son glacis stratégique à un pays, ben, on l'insécurise et ce pays se précipite dans les mains d'un homme fort qui a été Poutine et qui a su exploiter la situation et qui maintenant nous met un peu dans une impasse. Mais souvent je me dis pourquoi nous, Européens, n'avons pas été en mesure de faire valoir aux Américains que la logique normale de notre continent était une entente avec la Russie, que la Russie en partie recouvre notre civilisation. Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes laissés avoir et maintenant nous sommes pris au piège, notamment au piège des sanctions économiques. Avec la guerre d'Irak, on a été pris au piège des réfugiés et de l'immigration massive. Maintenant, avec la Russie, ces sanctions nous font autant de mal qu'à eux-mêmes, hein, et on n'arrive plus à s'en sortir. Donc moi, je crois que l'Europe, je termine en disant ceci, l'Europe doit, je dirais, remonter le courant, aller à contre-courant de son histoire de trois quarts de siècle passé pour s'affirmer comme en soi une puissance géopolitique. Vous n'êtes une puissance géopolitique que si vous avez un accord chez vous sur un modèle de développement. Vous ne pouvez pas projeter au dehors ce que vous n'êtes pas au dedans. Donc l'exigence pour exercer un rôle géopolitique sur le climat, sur le piège de Thucydide ou dans le voisinage, implique que l'Europe revoie son modèle interne et en fasse un modèle plus juste, un modèle plus durable, et qu'elle y ajoute la défense. Sans défense commune, oubliez la construction européenne. Et je crois que c'est de ça que nous devrions de plus en plus parler. Et moi, je ne veux pas militariser l'Europe, hein, je m'empresse de dire, je ne parle pas d'armée européenne, je parle d'une défense. Et je pense même que cette défense, au lieu de nous coûter plus cher que la défense actuelle, nous coûterait moins cher. Donc je ne veux pas pousser à la dépense militaire, mais je veux que l'Europe gagne en autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Donc ce n'est pas pour attaquer la Chine, ce n'est pas pour attaquer la Russie, c'est pour que nous soyons entendus des États-Unis et que les autres pays du monde ne fassent pas avec nous ce qu'ils font depuis de plus en plus. C'est ça le changement. La Chine, la Russie, les États-Unis, la Turquie nous divisaient en se disant de toute manière le patron il est à Washington. Donc si on veut discuter sérieusement, on va à Washington. Mais il n'y a personne à Bruxelles à qui on peut parler sérieusement. Donc on ne parle pas à Bruxelles. Et ça laisse à nos États l'illusion qu'ils existent encore comme puissance stratégique moyenne. Mais les puissances stratégiques moyennes, ça ne sert plus à grand-chose. Merci de votre attention.